les sociétés esclavagistes et coloniales, l'inégalité extrême. Voyons justement ce qu'il est possible de dire au sujet de l'ampleur de l'inégalité socio-économique qui caractérisait les sociétés esclavagistes et coloniales et des comparaisons que l'on peut faire avec l'inégalité moderne. De façon prévisible, ces sociétés figurent parmi les plus inégalitaires que l'on puisse observer dans l'histoire. Les ordres de grandeur et leurs variations dans le temps et l'espace sont toutefois intéressants en tant que tels et méritent d'être examinés de près. Le cas le plus extrême d'inégalité qu'il nous est donné d'observer est celui des îles esclavagistes françaises et britanniques de la fin du XVIIIe siècle, à commencer par Saint-Domingue dans les années 1780, où la proportion d'esclaves atteignait 90% de la population. Des recherches récentes permettent d'estimer que les 10% les plus riches de l'île, c'est-à-dire les propriétaires d'esclaves, en incluant ceux résidant partiellement ou totalement en France, les colons blancs et une petite minorité de métis s'appropriaient de l'ordre de 80% des richesses produites chaque année à Saint-Domingue, alors que les 90% les plus pauvres, c'est-à-dire les esclaves, se voyaient allouer sous forme de nourriture et de vêtements l'équivalent en valeur monétaire d'à peine 20% de la production annuelle, ce qui correspondait peu ou prou au niveau de subsistance. Il convient d'insister sur le fait que cette estimation a été réalisée de façon à minimiser l'inégalité. Il est possible que la part allant au décile supérieur était en réalité supérieure à 80% des richesses produites, peut-être jusqu'à 85-90% du total. Elle ne pourrait toutefois pas être beaucoup plus élevée compte tenu de la contrainte de subsistance. Dans les autres sociétés esclavagistes des Antilles et de l'océan Indien, où les esclaves représentaient généralement entre 80% et 90% de la population, tous les éléments disponibles suggèrent que la répartition des richesses produites n'était guère différente. Dans les sociétés esclavagistes, où la proportion d'esclaves était moins importante, comme au Brésil ou au sud des États-Unis, entre 30% et 50%, voire près de 60% dans certains États, l'inégalité était moins extrême, avec une part du décile supérieur dans l'ensemble des revenus produits que l'on peut estimer autour de 60-70%, suivant l'ampleur des inégalités au sein de la population blanche et libre. D'autres recherches réalisées récemment permettent de donner des éléments de comparaison avec les sociétés coloniales non esclavagistes. Les données disponibles sont limitées, en particulier car le système fiscal appliqué dans les colonies reposait principalement sur des taxes indirectes. Il existe toutefois un certain nombre de territoires coloniaux dans l'Empire britannique et dans une moindre mesure dans l'Empire français où les autorités compétentes, gouverneurs et administrateurs, sous le contrôle du ministère des colonies et du gouvernement métropolitain, mais avec en pratique une certaine autonomie et une grande diversité de situations, appliquèrent au cours de la première moitié du XXe siècle des systèmes d'impôts directs ou progressifs sur les revenus, voisins de ceux alors mis en place dans les métropoles. Ces impôts ont laissé des traces, en particulier pour l'entre-deux-guerres et la période précédant les indépendances. Les matériaux correspondants ont été rassemblés et exploités avec Facundo Alvaredo et Denis Cogniaux dans le cas des archives coloniales françaises et par Anthony Atkinson dans celui des archives coloniales britanniques et sud-africaines. Concernant l'Algérie, les données disponibles permettent d'estimer que la part du décile supérieur avoisinait les 70% du revenu total en 1930, soit un niveau d'inégalité plus faible que Saint-Domingue en 1780, décile supérieur autour de 80-82%, mais sensiblement plus fort que le niveau observé en France métropolitaine en 1910, décile supérieur autour de 50-52%, voire graphique 7.2. Cela ne signifie certes pas que la situation des 90% les plus pauvres dans l'Algérie coloniale, c'est-à-dire essentiellement la population musulmane, soit proche ou comparable à celle des esclaves de Saint-Domingue. Il existe des dimensions essentielles de l'inégalité sociale, à commencer par le droit de mobilité, le droit à une vie privée et familiale, le droit de propriété, qui distingue radicalement ces deux régimes inégalitaires. Il reste que, du point de vue de la répartition des ressources matérielles, l'Algérie coloniale de 1930 est effectivement dans une situation intermédiaire entre la France propriétariste de 1910 et l'île de Saint-Domingue de 1780, et peut-être même un peu plus proche de la seconde que de la première. Encore que l'imprécision des données disponibles ne permette pas d'être certain sur ce point. Si l'on se place maintenant dans une perspective spatiale et temporelle plus large, et que l'on compare la part des richesses produites au cours d'une année que s'approprient les 10% les plus riches, on constate que les sociétés esclavagistes telles que Saint-Domingue en 1780, suivies de sociétés coloniales telles que l'Afrique du Sud en 1950 ou l'Algérie en 1930, constituent les sociétés les plus inégalitaires de l'histoire. La Suède social-démocrate autour de 1980 constitue l'une des sociétés les plus égalitaires jamais observées en termes de répartition des revenus et permet de prendre la mesure de la diversité des situations possibles. La part du décile supérieur y était inférieure à 25% du revenu total contre 35% pour l'Europe occidentale en 2018, autour de 50% pour les États-Unis de 2018, comme pour l'Europe propriétariste de la Belle Époque, autour de 55% pour le Brésil de 2018 et de 65% pour le Moyen-Orient de 2018. Environ 70% pour l'Algérie coloniale de 1930 ou l'Afrique du Sud de 1950, et 80% pour Saint-Domingue en 1780. Voir graphique 7.3. Si l'on examine maintenant la part du centile supérieur, les 1% les plus riches, ce qui permet en outre d'inclure dans la comparaison un plus grand nombre de sociétés coloniales, en particulier celles avec un peuplement européen limité, pour lesquelles les sources disponibles ne permettent généralement pas d'estimer les revenus de l'ensemble du décile supérieur. Alors, les termes de la comparaison sont légèrement différents. Voir graphique 7.4. On constate que certaines sociétés coloniales se caractérisent par un niveau exceptionnellement élevé d'inégalité au sommet de la répartition. Cela concerne notamment l'Afrique australe. La part du centile supérieur se situe entre 30 et 35% en Afrique du Sud et au Zimbabwe dans les années 1950, et dépasse 35% en Zambie. Cela correspond à des situations où de minces élites blanches exploitaient d'immenses domaines terriens ou bénéficiaient de profits considérables, par exemple dans le secteur minier. Ces pays se caractérisent en particulier par des parts du millime supérieur ou du 10 millime supérieur exceptionnellement élevées. On retrouve cette situation à un degré légèrement moindre dans l'Indochine française. La part du centile supérieur s'approche de 30%, ce qui témoigne de rémunérations particulièrement importantes accordées à l'élite administrative coloniale sur ce territoire, ainsi que de revenus commerciaux et de profits très élevés dans des secteurs comme le caoutchouc, sans que les données disponibles permettent malheureusement une décomposition précise. Dans d'autres sociétés coloniales, en revanche, on constate que la part du centile supérieur, tout en étant très élevée, par exemple plus de 25% du revenu total en Algérie, au Cameroun ou en Tanzanie dans la période 1930-1950, n'était finalement pas très différente des niveaux observés dans l'Europe de la Belle Époque ou dans les États-Unis actuels, et était même sensiblement inférieure au niveau observé actuellement au Brésil ou au Moyen-Orient, environ 30%. Ces différentes sociétés apparaissent finalement assez proches les unes des autres pour ce qui concerne le niveau du centile supérieur, surtout par comparaison à la Suède social-démocrate de 1980, avec une part inférieure à 5%, ou à l'Europe de 2018, autour de 10%. Autrement dit, le sommet de la hiérarchie des revenus, les 1% les plus riches et au-delà, n'était pas toujours démesurément élevé dans le cadre des sociétés coloniales, tout du moins par comparaison à d'autres sociétés très inégalitaires du monde moderne. Si l'on prend par exemple le cas de l'Algérie coloniale, la position du centile supérieur vis-à-vis du revenu algérien moyen de l'époque n'était pas plus élevée que ne l'était le centile supérieur de la France métropolitaine vis-à-vis du revenu moyen métropolitain à la Belle Époque. En termes de niveau de vie absolu, le centile supérieur algérien était même nettement inférieur au centile supérieur métropolitain. En revanche, si l'on considère le décile supérieur dans son ensemble, alors la distance avec le reste de la société était sensiblement plus forte dans l'Algérie coloniale que dans la France de 1910. De fait, il existe des sociétés où une mince élite propriétaire, autour de 1% de la population, se détache par ses richesses et son mode de vie du reste de la société, et d'autres où une large élite coloniale, environ 10% de la population, se différencie de la masse de la population autochtone. Ces deux situations correspondent à des régimes inégalitaires et des relations de pouvoir et de domination bien distincts, et à des modes de résolution des conflits spécifiques. Plus généralement, ce n'est pas toujours l'ampleur de l'inégalité monétaire qui différencie l'inégalité coloniale des autres régimes inégalitaires, mais bien plutôt l'identité des vainqueurs, autrement dit, le fait que le haut de la hiérarchie est avant tout constitué de colons. Les archives fiscales coloniales ne permettent pas toujours d'étudier précisément la part des colons et des autochtones dans les différentes tranches de revenus. Mais à chaque fois que les sources le permettent, que ce soit en Afrique du Nord, au Cameroun, en Indochine ou en Afrique du Sud, les résultats sont sans appel. Bien qu'elle constitue une petite minorité de la population totale, la population européenne forme toujours l'immense majorité des plus hauts revenus. En Afrique du Sud, où toutes les tabulations fiscales de la période de l'apartheid ont été établies séparément par race, on constate que les Blancs représentaient toujours plus de 98% des contribuables du centile supérieur. Encore faut-il préciser que les 2% manquants sont constitués d'Asiatiques, essentiellement des Indiens, et non de Noirs, qui représentent moins de 0,1% des plus hauts revenus. En Algérie et en Tunisie, les données ne sont pas parfaitement comparables, mais les éléments disponibles indiquent que les Européens représentaient généralement entre 80 et 95% des plus hauts revenus. Il s'agit là d'un pourcentage qui est certes plus réduit qu'en Afrique du Sud, mais qui n'en traduit pas moins une position de domination économique quasi absolue de la part des colons. Concernant la comparaison entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, il est intéressant de constater que la première est moins inégalitaire que la seconde en termes de répartition des revenus, mais que l'écart est relativement faible, en particulier si l'on se place du point de vue de la part du décile supérieur. L'hyper-élite blanche, le centile ou le millime supérieur, était certes moins prospère en Algérie qu'en Afrique du Sud, mais du point de vue du décile supérieur, les deux situations n'étaient sans doute pas si éloignées. Il existait dans les deux cas une distance considérable entre les colons blancs et le reste de la population. La concentration des revenus semble certes avoir diminué en Algérie entre 1930 et 1950, la part du décile supérieur passant de près de 70% à moins de 65% dans les années 50. Ainsi qu'en Afrique du Sud entre 1950 et 1990, la part du décile supérieur passant de plus de 70% dans les années 50 à moins de 65% dans les années 90, mais elle est restée, dans les deux cas, à des niveaux extrêmement importants. Voir graphique 7.5. Il est par ailleurs frappant de constater que la part du décile supérieur a progressé en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, remontant à 65% en 2018. Nous reviendrons plus loin sur ce point. On notera également que les anciennes îles esclavagistes françaises de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, qui sont devenues des départements français en 1946, un siècle après l'abolition de l'esclavage en 1848, sont pendant longtemps restées extrêmement inégales en termes de répartition de revenus. S'agissant par exemple de la Réunion, les archives fiscales montrent que la part du décile supérieur dans le revenu total dépassait 65% en 1960 et était encore supérieure à 60% en 1986, soit des niveaux voisins de ceux observés en Algérie coloniale et en Afrique du Sud, avant de se réduire à 43% en 2018, ce qui demeure beaucoup plus élevé qu'en France métropolitaine. La persistance d'une très forte inégalité des revenus s'explique pour partie par l'insuffisance des investissements et par l'existence de salaires publics très élevés, tout du moins par comparaison aux salaires locaux et qui concernent souvent des fonctionnaires venus de métropole.